France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
1, 2, 3, Ouistiti, ne bougez plus. Histoire de la photo amateur. Les pionniers de la photographie ne seraient-ils pas tous plus ou moins amateurs au sens où ils n'ont bénéficié d'aucune formation? En tout cas, ils se la sont créés et puis la pratique s'est développée. Pour réaliser une photographie, nous avons besoin d'un appareil plus ou moins sophistiqué et d'un photographe, le plus souvent équipé d'un doigt au moins pour appuyer sur le déclencheur et d'un regard. Surtout d'un regard.
Photographiez-vous.
Je suis toujours un peu gêné dans certains cas par la photographie amateur parce que le souvenir, justement, il faut le pratiquer sans insistance, c'est-à-dire il ne faut pas à tout prix mettre la belle-mère devant l'acropole.
Plus je vais, plus le temps passe, plus j'essaie de faire des choses comme un amateur.
On peut dire, je crois, que la photographie est un des rites du culte domestique.
Le cours de l'histoire.
Finalement, les photos les moins prétentieuses, tu vois, les photos d'amateurs, les photos souvenirs, tout ça, me montrent une richesse qui n'existe pas dans beaucoup de photos que tu vois dans les galeries.
France Culture.
Moi, je ne fais pas de photos pour les conserver. Je fais des photos pour soulager une tristesse de voir les belles choses passer.
Photographiez-vous.
Des voix qui se croisent pour débuter cette émission consacrée à la photographie amateur. Ce sont celles de grands photographes, Raymond Depardon, Jacques-Henri Lartigue, Bruno Ruquillard, Guy Le Quérec et un sociologue, Claude Grignon. Et pour nous parler aujourd'hui de la photographie amateur, Pierre-Jean Amard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, historien de la photographie, photographe, et Eliane Delarmina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études visuelles dans le département d'études anglophones à l'Université Paris-Cité, la photo amateur. Mais déjà, qu'il est difficile de définir qui est amateur et qui est professionnel. Je disais, dans les premiers temps de la photographie, les pionniers sont des amateurs au sens où il y a du bricolage. Il y a tout à inventer, c'est cela, Pierre-Jean Amard.
Ah oui, il y a tout à inventer parce que Le professionnalisme arrive assez vite, mais beaucoup de pratiquants de la photographie sont des amateurs fortunés d'abord, parce que la photographie coûte cher. Le daguerréotype, ça coûte très cher à faire. Le matériel est cher. Il faut du temps. Il faut du temps. Aujourd'hui, faire une photo, ça va très vite. À l'époque, c'était très long. Il fallait préparer les plaques, il fallait avoir le grand appareil sur pied, il fallait prendre le temps de faire poser les gens si on voulait photographier. Et donc, il y avait, je dirais, une assez peu de différence entre un amateur et un professionnel.
Oui.
La seule différence, c'est que le professionnel arrivait à gagner de l'argent avec ses photographies. L'amateur n'en avait pas besoin.
C'est ça, déjà, une approche pour différencier l'amateur du professionnel. C'est la destination pour la photographie. Est-elle destinée à être vendue ou le photographe rémunéré pour cette photographie? Eliane Delarmina, la définition ou la limite entre l'amateur et le professionnel, ça peut être poreux à un moment donné.
Oui, effectivement, et cette question d'ailleurs de la rémunération, elle peut avoir été saisie par des acteurs du champ un peu élargi de la photographie pour poser des définitions qui étaient potentiellement un peu polémique. Et à la fin du 19e siècle, on voit combien dans les sociétés photographiques, l'exclusion ou l'inclusion des professionnels, des gens qui font commerce de leur photographie, a servi à construire, enfin définir une fonction de photographe, alors qu'il n'est pas encore vraiment pensé comme artiste, mais qui cherche à se circonscrire comme une activité un peu à visée esthétique ou en tout cas non vulgaire, mais ça n'est qu'un cas des nombreux effectivement tentatives ou outils qui permettraient de mettre un peu de l'ordre dans ce vaste monde de gens qui font des photos ou qui peut-être font de la photo, mais qui ont ou non la légitimité de se dire photographe.
Il y a la démarche et puis il y a ce qui est représenté aussi, parce que là, la limite, encore une fois, est floue, sachant que l'idée de faire un portrait, nous l'attribuons peut-être à un photographe professionnel, et on pense tout de suite à Nadar au 19e siècle, mais la photo de famille, alors est-ce une photographie amateur? Enfin, il y a plein d'approches différentes de l'idée de photographie amateur. Pierre-Jean Amard, c'est pas le sujet non plus qui fait la photographie amateur
non,
ou professionnelle.
Non, parce que les sujets sont souvent communs entre les photographes professionnels et les photographes amateurs. Souvent, ce qui les différencie, c'est peut-être la qualité de vision. encore qu'il y ait de mauvais professionnels et de très très bons amateurs. Donc, comment dirais-je, les frontières sont très floues et les catégories se superposent.
Oui, c'est ça.
Par contre, on a évoqué un mot tout à l'heure, aucun de ces photographes amateurs ou professionnels ne se prenait pour des artistes. L'idée que le photographe devienne un artiste est une idée qui arrive tardivement.
Ah oui ?
Ben oui. Dans l'esprit des premiers photographes, c'était des gens qui produisaient des images, mais ils se considéraient pas comme des artistes. Bien que beaucoup d'entre eux étaient d'anciens peintres. Au début de la photographie, beaucoup de peintres ou de dessinateurs sont devenus photographes.
Et d'ailleurs, dans le film de Cédric Lapiche, L'Avenue de l'Avenir, un film de 2025, il y a cet échange entre un jeune peintre et un jeune photographe au temps des premiers temps de la photographie. Et là, la rivalité est évidente entre ces deux approches, entre ces deux arts.
Et voilà, et donc Anatole est peintre.
Peinture.
Et moi, voilà, je suis photographe.
Et Lucien fait de la photographie parce qu'il ne sait pas dessiner.
Mais n'importe quoi, mais j'ai très bien dessiné, qu'est-ce que tu racontes ?
C'est ça.
Non. Il dit ça parce que lui, il est peintre. Et il n'a toujours pas compris que la peinture, dans quelques années, ça n'existera plus.
La peinture, ça n'existera
plus. Évidemment que ça n'existera plus, ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien.
La peinture, ça existera toujours. Tu crois vraiment que la peinture, ça peut disparaître un jour ?
Mais tout le monde le sait que ça va disparaître.
La peinture, c'est pour ceux qui bossent, et la photographie, c'est pour les feignants.
Non, tu ne peux pas dire ça.
Ah non, il ne peut pas dire ça quand même, la photographie pour les feignants, c'est pas possible de dire ça. La photographie comme loisir, en revanche, ça c'est quelque chose qui apparaît dès le 19e siècle, très tôt. Hein.
Bien sûr. Et on voit d'ailleurs naître des magazines spécialisés pour les photographes amateurs. Moi j'ai dans ma bibliothèque une série de magazines datant de 1900-1904. Cette revue s'appelait Pêle-mêle. Alors ce sont des magazines qui donnent d'abord beaucoup de recettes. Comment fabriquer son révélateur, comment tirer une photographie au soleil. Et puis, il publie aussi quelques photographies de lecteurs. Donc, ça permet aux autres lecteurs de voir un peu la production. Et alors, tout ça, ce sont des images qui n'ont pas une très grande qualité, mais elles ont quand même le mérite d'exister et surtout, elles sont publiées. Oui. Donc ça fait un corpus d'images que l'on peut regarder, étudier, voilà. Et dans, par exemple, je reprends cette idée du magazine Pêle-mêle. Si on regarde l'ensemble, moi j'ai sur une dizaine d'années, ça permet d'avoir quand même une idée de ce qu'étaient les centres d'intérêt. Beaucoup de paysages, beaucoup énormément de paysages, quelques portraits. Alors les photos de famille n'étaient pas publiées. Bon, elles restaient dans la sphère de l'intime. Voilà. Mais moi, j'ai des photos de famille de mon grand-père qui sont de véritables belles images.
Vous en avez fait un livre, d'ailleurs, hein, Pierre-Jean oui. Hamard. Alger retrouvé, 1900-1940, avec ici l'exploration de vos archives familiales. Alors, il y a comme une mise en abîme absolument sidérante, hein, parce que historien de la photographie, photographe vous-même, et donc en charge de cette archive familiale exceptionnelle, des albums photos réalisés par votre grand-père, donc à Alger.
Voilà, alors, j'ai consulté les images de mon grand-père parce que j'ai vu le film de Viviane Maier. Parce que je savais que mon grand-père avait fait des photos, mais je n'avais jamais regardé ces photographies. Donc, pendant le Covid, où j'avais du temps, et où j'ai vu le film de Viviane Maier, je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil sur les photographies de mon grand-père. Donc, je n'avais que des plaques négatives. Donc, j'en prends 20 au hasard, je les scanne, et dans ces 20 photos, il y en avait 10 extraordinaires. Donc, je me suis dit, je vais aller voir les 250, puisque j'en avais 250, et en les regardant, ben je me suis aperçu qu'il y avait à la fois des photographies de famille, très intéressantes, des photographies sur la ville d'Alger dans les années 1900-1940. Alors l'inconvénient, c'est que ces photos ne sont ni datées ni légendées. Donc il a fallu faire des approximations ou bien faire des recherches sur Internet. Et il y avait aussi des photographies faites pendant la guerre de 14, puisque mon grand-père était médecin. Capitaine pendant la guerre de 14. Donc il a fait des photos. Et il y avait aussi, entre les deux guerres, entre 14 et 40, beaucoup de photographies dans le port d'Alger de bateaux militaires, enfin de navires militaires. Et alors, ça c'est extraordinaire, j'ai pu, grâce à un historien anglais de la marine, retrouver le nom de tous les bateaux et même le nom des capitaines. Merveilleux.
C'est merveilleux.
Merveilleux. Alors tout ça a fait que j'ai eu envie d'en faire un livre et Herscher a accepté de le faire et j'ai été très, très heureux qu'il soit publié.
Les éditions Herscher avec ici une qualité d'image, parce qu'il faut le rappeler sans cesse, hein, ces photos anciennes offrent des détails que l'on imagine à peine aujourd'hui.
Oui, alors il y a une raison, c'est que ces photos étaient souvent faites sur de grandes plaques. Donc au plus le négatif est grand, au plus on a une qualité d'image qui est grande. Donc, et comme mon grand-père avait fait l'essentiel de ses photos en 4-5, en 9-12 cm, bah ça a permis de faire des tirages de très belle qualité.
Éliane de Larmina, Pierre-Jean Amar vient d'évoquer, pour expliquer son intérêt pour ses archives photographiques familiales, le visionnage d'un film, celui de Viviane Maillère. Qui est-elle et pourquoi d'ailleurs, d'après vous, c'est ça qui a pu inciter Pierre-Jean Amar à plonger dans ses archives?
Alors, Viviane Maillère, qui est donc cette femme qui a vécu toute sa vie adulte à Chicago, qui travaillait comme nourrice, donc qui évolue dans un espace qu'on pourrait considérer comme domestique professionnellement, mais qui a pendant toute sa vie pris des photos dans Chicago, enfin donc dans toutes sortes d'espaces publics, dont les archives ont été redécouvertes par hasard par un agent immobilier de Chicago, John Malouf, et donc après, donc finalement c'est quelqu'un, on imagine qu'elle était perçue comme une femme excentrique qui faisait beaucoup de photos, mais qui ne montrait probablement pas beaucoup ses photos, qui n'était pas affiliée à des collectifs où on regarde ensemble des photos, et qui après sa mort devient une photographe, et même une grande photographe, avec ce qui est intéressant, c'est que ce cas nous permet, en fait, justement, de revoir cette délimitation entre amateur et artiste, ou en tout cas photographe, grand photographe, parce que Viviane Maillère, c'est quelqu'un qui est très seul dans sa pratique, qui met en scène aussi cette image de ce regard d'artiste qui, plutôt que d'être inscrit dans le quotidien, des rituels, des occasions professionnelles ou amicales, poursuit ses images, cherche son regard, et peut-être même en avance sur son temps, est en dialogue, en le sachant ou ne le sachant pas, avec les autres grands photographes de son époque, et on ne s'encombre plus beaucoup, au-delà de sa biographie à elle, de l'espace social autour. Donc c'est aussi une sorte de... Non, enfin, qu'elle se soit ou non conçue comme photographe amateur ou photographe, la façon dont elle est assignée quelque part photographe est comme un jugement aussi contre tous les autres photographes autour d'elle qui ne seraient que des amateurs, et pas simplement par les images qu'ils et elles produisent, mais aussi par la figure peut-être moins individuelle qu'il et elle présente.
Avec cette posture, on l'a bien compris hein, depuis que nous échangeons, délicate à définir entre l'amateur, le professionnel, et dans la démarche même, Pierre-Jean Amar, vous, photographe, je peux le dire, professionnel, bien sûr.
On peut le dire.
Vous êtes aussi photographe amateur à d'autres moments quand il s'agit de photos familiales, par exemple. Mais dès que vous en faites un livre, ces photographies qui pourraient être des photographies d'amateurs deviennent des photographies professionnelles. Je peux citer notamment les 20 ans d'Aurélien, donc à partir des photographies familiales sur votre fils, ou encore, parce qu'il faut le dire, Pierre-Jean Amar, les photographies de chats, de vos chats. Vous en avez fait un ouvrage intitulé Photomatou.
Absolument.
Auquel j'ai participé, donc nous nous connaissons.
Nous nous connaissons grâce à ce livre.
Photomatou, les photos de chats, ce sont des photos... Non,
d'amateur.
Mais...
Oui, alors, vous, pour évoquer le livre d'Aurélien, j'ai pris la décision de faire un livre sur mon fils au moment où ma femme était enceinte. Pour une simple raison, c'est que beaucoup de mes amis, femmes de photographes, me disaient « Mon mari va faire des photos aux quatre coins du monde et il ne fait jamais de photos à la maison. » Donc j'ai dit « Moi, je vais prendre le contre-pied, je vais avoir un enfant, donc je vais suivre cet enfant. » Et je ferai, pour ces 20 ans, un livre. Donc j'ai pris cette décision 20 ans avant. Et j'ai essayé de tenir ma promesse. Et alors, la difficulté, pour moi, c'était d'éviter de faire des photos de papa en essayant de faire des photos de photographe. Et ça, j'ai essayé de tenir la gageure, mais c'est vrai que c'était pas simple tout le temps. Et j'ai, dans les archives, énormément de photos de papa, bien entendu, mais que j'ai évité de publier dans ce livre.
Oui, voilà.
Voilà, et c'est ça la différence. Alors, c'est ça la différence. C'est que les mêmes images faites par des photographes amateurs, eh ben, n'ont pas peut-être cette qualité de vision, de cadrage, de composition, de choix de la lumière, de choix de l'instant, qui font que tout ça devient une bonne photo ou une photo banale.
Oui, voilà. Parce que les photographes professionnels, nous connaissons les noms, puisque quand nous regardons dans les dictionnaires, il y a écrit photographe. On vous dit, voilà, il est photographe. Mais à côté d'autres grands noms, je pense à ceux du 19e siècle, nous avons écrivain, à côté, peintre, mais ce sont des photographes. Il n'est qu'à citer Edgar Degas, le peintre. Il est photographe. Émile Zola, bien sûr. Eliane de Larmina. On a ici Victor Hugo aussi, des gens qui se sont intéressés à la photographie en tant qu'amateurs.
Oui, bah en fait, ça correspond aussi au fait que la photographie est une pratique, alors très difficile à maîtriser aussi au plan technique dans les premières décennies, mais qui depuis sa conception, et a aussi été imaginé comme un art accessible, justement, comme on l'entendait dans l'extrait de L'Avenue de l'Avenir, plus facile, quoi, à la portée d'un peu tout le monde, ce qui va devenir de plus en plus réel. Et donc, c'est plus facile de se verser un petit peu dans la photo à côté de son activité culturelle autre que de faire du cinéma au tout début du XXe siècle ou de la composition musicale. Donc, c'est tout simplement une forme technique qui est hautement accessible, même si cette accessibilité elle évolue très fortement en termes encore une fois de technique mais aussi de coût au cours de l'histoire de la photographie jusqu'à aujourd'hui.
C'est très juste hein, ce que vous dites là, d'autant que peindre, dessiner fait partie des loisirs classiques du 19e siècle, sauf que faut une forme de talent ou au moins faut une formation pour réaliser quelque chose d'acceptable. Il y a l'idée qu'avec la photographie il est possible d'obtenir quelque chose. Alors après la qualité est autre, mais on arrive à reproduire assez facilement quelque chose. C'est ce sentiment-là, Pierre-Jean Hamard. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages, notamment des Que sais-je, hein, l'histoire de la photographie ou les 100 mots de la photographie en Que sais-je. C'est vous. Le peintre bénéficie d'une formation, parce qu'on ne s'invente pas à peindre, ou alors on crée des choses qui ne peuvent pas correspondre de manière technique à des attentes qui répondent à une norme. Pour la photographie, c'est un peu la même chose. On peut s'improviser photographe ou un peu de formation?
Alors, je reviens juste sur les peintres. Il y avait quand même des moyens techniques pour dessiner avec des machines. La chambre obscure ou la chambre claire. Donc, ça permettait quand même à des gens qui n'avaient pas cette technicité du dessin d'obtenir des images dessinées grâce à ces machines. Et ça, depuis longtemps, puisque la chambre obscure existe depuis très longtemps. Et la chambre claire est arrivée au 18e siècle, donc très facilement on pouvait dessiner. Donc, par contre, la photographie, tant qu'elle était difficile à mettre en œuvre, les trois premières grandes techniques, hein, daguerréotype, calotype et collodion, il fallait tout préparer juste avant la prise de vue. C'était pas facile, il fallait des tours de main. Donc il fallait de la pratique. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas de formation. Donc les gens se formaient tout seuls ou étaient apprentis de quelqu'un qui savait déjà. Donc c'était ça aussi la façon de se former. Mais malgré tout, il faut attendre 1880, le moment où on invente ce qu'on a appelé le gélatino-bromure d'argent, qui a permis de faire des plaques dites sèches que l'on pouvait fabriquer à l'avance et donc conserver et obtenir des appareils dans lesquels il y avait par exemple 12 plaques qui permettaient de faire 12 photos à la suite. Et puis ensuite, ce gélatino-bromure d'argent, on a réussi à le couler sur de l'acétate, au début du papier, puis après de l'acétate. Donc ça a permis de faire ce qu'aujourd'hui on appelle un film. Donc cette facilité est arrivée vraiment à la fin du 19e siècle. Et concomitamment, les appareils sont devenus portatifs, et on n'avait plus besoin d'un pied pour faire de la photographie. La sensibilité du gélatino-bromure avait augmenté, donc on pouvait faire de l'instantané. Et c'est ce qui a permis le développement de la photographie d'amateur, vraiment, alors là, à grande échelle. Parce que techniquement, c'était facile. Tant que c'était difficile, malgré tout, ils étaient peu nombreux.
Oui, Pierre Joinmar, vous évoquez la chambre noire, la chambre claire, enfin ces éléments un peu d'archéologie de la photographie qui étaient déjà liés aux images faciles à réaliser. Donc on sent bien que sûr. Quand même, avant même que la photographie soit une technologie qui permet de produire des images fixes, il y a ce lien fort avec l'accessibilité et la facilitation de la production d'images. Et pourtant, pour que ça devienne concret, ben, il faut toutes sortes d'avancées, d'expérimentations, potentiellement d'impasses, enfin, voilà, au 19e, pour trouver quelle sera la méthode sûre, non seulement, enfin, qui marche presque à tous les coups et sans, une énorme compétence derrière. Et c'est quelque chose qui, comme vous le soulignez, dépend de l'introduction des émulsions sèches, donc qui permettent de séparer la prise de vue de toutes les étapes de préparation avant et après, enfin, de préparation et de traitement. Et après, donc ça, c'est des années 1880, et dans le même temps, développement de l'industrie photographique qui produit des appareils photo, qui produit des films, des matériaux photographiques et qui s'occupe du traitement, du développement du tirage, avec ce slogan extrêmement connu de l'entreprise Eastman Kodak, donc qui crée ce mot Kodak, mais qui introduit aussi un slogan qui a beaucoup saisi la société puis les historiens. You press the button, we do the rest. Vous appuierez sur le bouton, nous ferons le reste, qui est vraiment l'intronisation d'un nouveau type d'amateur, donc propre au XXe siècle, qui est quelqu'un qui appuie sur le bouton, donc qui une requalification de ce que c'est que pratiquer la photographie. Et qui correspond à une forme de, alors soit une nouvelle invention, soit un deuxième âge, enfin ce que François Brunet appelait un deuxième âge de la photographie, une actualisation de la photo comme art pour tous.
Ah oui, parce que là, ce que vous venez de dire, c'est qu'être photographe amateur dans les premiers temps, c'est préparer tout le matériel, réaliser le cliché et ensuite le développer,
oui, tout faire. Alors qu'après, comme disait Madame Marina, on appuie sur le bouton. On donne ça à un professionnel qui s'en occupe, il développe, il fait les tirages, il vous les rend, vous payez, et puis vous êtes tranquille. Mais, malgré tout, la difficulté, c'est que ça finissait quand même par coûter cher.
Eh oui.
Eh oui, ça finissait par coûter cher.
Oui, parce que ça y est, le daguerréotype est mis de côté depuis longtemps.
Oui, depuis longtemps.
Les tirages sur verre, ça coûte cher, hein, j'imagine, ces plaques de verre.
Ah mais, jusqu'en 1880, faire de la photographie était un loisir coûteux. Et professionnellement, une profession où il fallait investir, et il fallait surtout du matériel, de la place, souvent un assistant. Quand Matthew Brady partait pendant la guerre de sécession avec son chariot, ben, il fallait bien qu'il ait un assistant aussi pour l'aider, parce qu'il fallait préparer les plaques au moment de la prise de vue.
Et après, donc, on a des tirages qui sont réalisés sur quoi ? Sur papier ?
Sur papier dit salé, oui, sur papier salé. Bon, c'était un papier qu'il fallait aussi préparer soi-même. Il n'y avait pas, dans le commerce, de papier photographique pour le tirage. Il fallait aussi préparer son papier. À l'albubine, ou en papier salé, ou bon, avec différentes techniques, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'était un peu compliqué, quand même. Moi qui ai essayé de les pratiquer,
ah oui.
C'est compliqué.
C'est vrai, vous avez reproduit.
Ah j'ai repris. Au niveau du tirage, j'ai refait du papier salé, j'ai refait du papier à l'albumine.
Et les résultats ?
Ah ben les résultats sont bons. Une fois qu'on sait comment il faut faire.
Voilà, mais c'est long.
Bon. Mais c'est long. Et finalement, aujourd'hui, on a de bien meilleurs résultats beaucoup plus facilement.
Eliane Delarmida.
Effectivement, la photographie amateur, c'est aussi et peut-être surtout un grand marché commercial, enfin, donc un champ d'application industrielle et un marché sans fin, jusqu'au numérique, parce que pour faire des photos, il faut acheter de la pellicule, ensuite, les laboratoires de tirage vont eux-mêmes avoir acheté du papier au produit, à l'industrie photographique. Il y a une sorte de situation presque, alors pas vraiment de rente, parce que c'est une industrie avec des évolutions techniques permanentes pour améliorer le résultat, la possibilité de belles photographies, de photos réussies qu'on offre aux amateurs. Mais donc il y a une histoire technique de l'industrie photochimique qui est très importante, et par ailleurs c'est aussi une histoire économique et commerciale, puisque finalement la grande question qui se pose pour pouvoir faire des photos, c'est la question d'avoir le temps, mais surtout peut-être les moyens. Le premier appareil Kodak qui est préchargé avec 100 vues à la fin des années 80 coûte 25 dollars, ce qui est extrêmement peu cher, mais ce qui est l'équivalent d'un mois de salaire d'un ouvrier. Quelques années après, le Brownie coûte 1 dollar. un appareil de peut-être moindre qualité, mais en tout cas qui devient extrêmement accessible. Et tout au cours du XXe siècle, il y a une baisse des coûts, en même temps une hausse du niveau de vie. Et c'est voilà, la façon dont, à la fois commercialement et industriellement, la photographie accompagne l'évolution aussi des loisirs, en fait, au XXe siècle, avec des loisirs qui correspondent à un champ économique, qui sont très liés à la consommation et qui deviennent de plus en plus accessibles à un de plus en plus grand nombre d'usagers. Et c'est quelque chose qu'on voit en particulier dans les magazines de photos où il y a énormément de publicité. C'est une caractéristique vraiment marquée. Ça fait partie des magazines qui sont les plus chargés au XXe siècle en pages publicitaires, en plus des pages techniques qui décrivent les appareils, les papiers, etc.
Voilà, Pierre-Jean Amar, oui. Dans les magazines que vous avez, vous, dans votre bibliothèque.
Il y a beaucoup de publicité.
Beaucoup de publicité, ah oui, pour plein d'appareils différents.
Des appareils, des plaques, des laboratoires qui peuvent traiter et les plaques et faire les tirages. Donc c'est vrai que dans ces magazines, il y a énormément de publicité. Alors c'est drôle parce que ce sont des magazines où les publicités ne sont pas des photographies.
Des gravures.
Ce sont des gravures.
Ah oui, ils ne vont pas jusque-là.
Ben oui, alors qu'on savait déjà imprimer les photos dans le magazine, mais les publicités, elles, sont des publicités dessinées. Voilà.
Et dans ces magazines, j'imagine qu'on trouve de quoi tirer soi-même ses photos si on peut bénéficier d'un petit laboratoire.
Ah ben oui, il y a toutes les formules, il y a toutes les conseils possibles et imaginables. Et puis alors, il y a des inventions les plus farfelues possibles.
Hein, ça, c'est-à-dire
alors. Ah oui, il y a plein de gens qui ont essayé mes différentes façons de tirer. Alors on a tout employé, hein, depuis la purée de pommes de terre jusqu'à automate écrasé. Enfin bon, vraiment, on a tout essayé. Il y avait des trucs qui marchaient, il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Mais on voit dans ces magazines toutes ces recherches un peu farfelues. Et ça veut dire qu'il y avait quand même un engouement pour cette nouvelle façon de rapporter l'histoire de la vie courante. Voilà.
Il y a ce moment magique, hein, on le sait bien, au moment où se dévoile la photographie. Là, nous sommes dans le laboratoire et nous y sommes avec Pauline Carton.
Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution, il faut remuer l'effigie pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie. Le cliché monte, il se maintient à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas, en vérité, après autant de minutie, n'avoir à la fin qu'un raté en guise de photographie. C'est fini, faut pas s'énerver. L'opération est complète. Il ne reste plus pour le laver qu'à mettre cliché dans une cuvette. Et si le plaisir est sans pareil qu'on a pris à toute cette chimie, on recharge son appareil pour faire une autre photographie.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La photographie chantée par la sublime Pauline Carton dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique d'Alia. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la photographie amateur. Eliane de Larmina, bien sûr, nous le saisissons et vous avez avec justesse rappelé combien tout cela est lié à une histoire économique, une histoire sociale, celle des loisirs notamment. La photographie amateur se développe au sens où désormais, avec un peu d'argent, on peut acheter un appareil photo, acheter des pellicules et puis après les faire développer. La question demeure, les sujets représentés, est-ce qu'il est possible de faire une approche de l'histoire de la photographie amateur par les sujets représentés, par peut-être une histoire sociale aussi de ce qui est montré ici?
Alors effectivement, on peut dire qu'il y a eu deux grandes manières d'approcher l'infinie production des amateurs, que ce soit dans les musées ou pour les historiens, etc. C'est soit la forme, donc les photos amateurs, c'est des certains types d'erreurs, c'est des sortes de signatures, le flou, le bouger, peut-être une forme de spontanéité. Dès que la simplicité, c'est peut-être une innocence, voilà, donc des images qui auraient un certain style. Et par ailleurs, c'est des images qui labourent un peu sans cesse les mêmes lieux et temps. Donc on pense bien sûr à voilà, la photo de famille, Noël, les photos des enfants, les photos de vacances. Donc bien sûr, l'histoire de la photo de coucher de soleil au bord de la mer, quand on est dans la bonne orientation. Mais et donc cette recherche, donc on pourrait faire une typologie. Effectivement, peut-être les artistes d'ailleurs qui s'inspirent de la photo de la photo des amateurs, parfois vont faire ces sortes de typologies. On pense à Stephen Shore dans les 70, photographier l'assiette au restaurant, les amis chez qui on est, la maison où on s'est arrêté, les animaux. Donc une approche de sujet au centre de l'image, donc avec une simplicité de ce qui serait quelque part au premier plan. Et en même temps, si on veut faire une histoire sociale de ces images amateurs, on va plutôt s'intéresser peut-être au contexte, au lieu et au moment dans lequel on fait les photos, au lieu et au moment et au groupe avec qui et où on va regarder ces photos, et à tout ce qui se passe autour de la prise de vue. Et peut-être justement pas adopter le point de vue du viseur de ces appareils point and shoot, enfin donc où on se contente de viser et de presser sur le bouton, qui resterait figé sur ce point au milieu de l'image.
Oui, c'était cette question de regard en fait qui différencie aussi l'amateur et le professionnel. Pierre-Jean Hamard, parce que c'est bien difficile de saisir au fil du temps le positionnement amateur-professionnel et même à l'intérieur du champ des photographes professionnels, le sujet représenté qui pourrait être légitime dans un monde amateur. En revanche, ce qui différencie tout cela, c'est le regard, le positionnement de l'artiste dès lors face à ce qu'il regarde.
Alors, je pense qu'il y a deux choses qui différencient l'amateur du professionnel. C'est, comme vous venez de le dire, c'est la qualité du regard, la qualité de la composition, mais aussi les sujets traités. Il y a des sujets que les photographes amateurs ne traitent jamais et qui sont réservés au domaine professionnel. Je pense par exemple à la photographie de mode. Bon, l'amateur ne fait pas de photographie de mode. L'amateur ne fait pas de photographie scientifique. L'amateur ne fait pas de photographie d'architecture pour des grands architectes. Donc voilà des domaines qui sont réservés vraiment aux professionnels. Et l'amateur, lui, va traiter des sujets plus faciles d'accès, comme vous venez de le dire, la photo de famille, la photo de vacances, les mariages, les communions. Encore que dans mariage et communion, il y avait une partie réservée aux professionnels. On allait chez le photographe se faire photographier dans le costume de communion.
Oui, mais c'est vrai.
Ce qui n'existe plus aujourd'hui, ce qu'on ne voit plus.
Non, mais en tout cas, la présence d'un photographe professionnel lors des mariages, ah oui. C'est le classique.
Voilà, et ça continue encore. Ça a beaucoup diminué, il y a beaucoup moins de professionnels dans les mariages, parce que tout le monde croit qu'ils sont capables de faire la même chose avec leur smartphone. Bon, ce qui n'est pas vrai. Hein, ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai du tout.
Mais ça existe. Voilà, donc. Mais cette différenciation amateur-professionnel, par contre, pour certains sujets ou pour certains thèmes, sont les mêmes. Sont vraiment, je sais pas, je pense au paysage, par exemple. Y a de très grands photographes qui ont fait du paysage. Par exemple, c'est la dame, Edward Weston, donc il y avait une grande expo à Paris récemment. Voilà. Et à côté de ça, y a des gens qui sont allés à Pointe-le-Bosse faire des photos, mais c'est pas les mêmes que celles de Ansel Adams ou celles de Weston. Et c'est ça. Alors, après, comment différencier vraiment? Comment juger? Ça devient difficile. Ah ben, moi qui ai beaucoup enseigné la photographie à des gens amateurs, par exemple, pour leur faire comprendre la différence entre une bonne et une photo moyenne, où c'est très compliqué. Parce que la réponse, c'est « Ah ben, c'est comme ça que je voulais faire. » Oui, ben d'accord, mais peut-être tu te trompais. Hein.
Peut-être, et puis pour avancer dans cette réflexion bien difficile hein, de définition de la photographie amateur, je vous propose d'écouter une archive. La voix de quelqu'un, Pierre-Jean Amar, que vous avez très bien connu, Willy Ronis.
Dans cette photographie, par exemple, j'ai un personnage qui est encadré, d'une manière qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, j'ai prévu ce moment. Je l'ai attendu. J'ai vu ce personnage monter l'escalier. J'ai attendu qu'il soit à cette place-là pour le photographier. On a dans les quatre coins à peu près des angles droits. Pour moi, il n'y a pas de contenu qui soit exprimé de manière totale s'il n'y a pas une forme qui soit étudiée dans tous ses détails. Bien sûr, on ne peut pas toujours faire ça dans la photographie prise sur le vif. Mais c'est précisément un de ces défis qui sont tellement passionnants pour le photographe qui aime travailler sur le vif. C'est d'essayer de construire dans le contingent quelque chose dont tous les éléments paraissent en quelque sorte exemplaires.
Ici, c'est Willy Ronis en 1980 dans l'atelier création radiophonique de France Culture. Pierre-Jean Amar, vous avez connu Willy Ronis, bien sûr, des ouvrages aussi, hein, une amitié avec Willy Ronis que vous avez publié aux éditions Bization. Dites-nous, ici, dans cette réflexion, vous la voyez cette photo là d'ailleurs qu'il décrit ?
Oui, alors, comme disait Willy et comme il l'a écrit, le photographe doit avoir une vision objective et une vision globale. C'est-à-dire qu'au moment où il appuie sur le bouton, il doit avoir vu dans son viseur tout ce qui devait se mettre en place. Et c'est ce que dit Willy. J'ai attendu que ce personnage se mette à la bonne place dans l'escalier. S'il n'avait pas été là, la photo n'avait pas de sens. Je me souviens d'une autre photographie qui s'appelle Bouvard-Richard Lenoir, où il y a tout un tas de choses qui se passent. Il y a des gens qui parlent sur le seuil d'une boutique. Il y a un fardier qui passe avec le cheval, etc. Il y a une dame qui descend les escaliers avec un bébé dans les bras. Et en bas à gauche, il y a une boîte aux lettres. Bon. Donc, cette photo est une des photos emblématiques de l'œuvre de Ronis. Et un jour, cette photographie que j'ai souvent tirée pour lui, j'étais en train de la fignoler, de la repiquer, ce qu'on appelle repiquer. Et quand je fais cette opération, c'est une opération un peu longue, pas très intéressante. Donc j'écoute la radio. Et je mets France Culture. Et qui parlait à France Culture ? Willy Ronis. Déjà, c'était drôle. Et de quoi parlait-il ? De cette photo. Et il disait que c'était une photo qui, pour elle, était extraordinaire, etc. Et il dit, ce que je regrette, c'est que, en plus de tout ce qui s'y passe, il n'y ait pas eu quelqu'un qui était en train de mettre une lettre dans la boîte aux lettres qui est en bas à gauche des escaliers. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon regard se porte sur la boîte aux lettres, parce que j'avais la photo sous les yeux, et je vois à côté de la boîte aux lettres une petite tache noire que je n'avais jamais vue, et cette tache noire, c'est un chat que je découvre. 8 jours après, je devais rencontrer Willy Ronis. Et je me suis dit, je vais lui dire que j'ai vu cette photo. Alors, quand j'arrive chez Willy, il me dit, tu sais, il ne faut pas que j'oublie, j'ai quelque chose à te dire sur une photo. Ah bon ? Et nous rentrons dans son atelier, et il y avait cette photo, en très grand, en poster, sur le mur, et son regard se tourne vers la photo. Je lui dis, tu ne vas pas me parler de cette photo ? Il me dit, oui, oui. Je lui dis, mais il me dit, tu sais, avant-hier soir, je regardais encore cette photo et j'ai découvert qu'il y avait un chat, 40 ans après la prise de vue. Mais j'ai dit, Willy, mais j'ai fait la même découverte que toi. Et voilà, il avait tout vu, sauf le chat. On en a fait un livre.
C'est une sublime histoire, hein, Pierre-Jean Amar.
Ah, c'est une belle histoire, oui, c'est une très belle histoire.
Éliane Delarmina, parce que nous parlons beaucoup de la photographie avec l'intention du photographe, amateur ou professionnel, mais il y a aussi la question du regard. C'est comment nous regardons ces photographies. Vous avez publié un ouvrage consacré aux maisons, enfin, houses et homes, comment on dit, c'est ça ?
Houses and homes, oui.
Ouais, j'essaie bien de lire. Hein. Photographier les maisons aux États-Unis 1930-1990. Ces photographies de maisons ne sont pas des photographies d'artistes. Mais comme beaucoup de photographies que nous avons pu évoquer, elles ne sont pas produites pour être des photos d'art, mais par le regard porté sur ces photos, elles deviennent des photos d'art. Ça a ici, ça ajoute aussi un champ à notre approche de la photo amateur. Qui prenait ces photos de maison ?
Alors, en l'occurrence, dans le livre, je traite plutôt des photos qui sont produites par des artistes, mais enfin des photographes professionnels et des photographes publiés, mais qui vont s'approcher de la maison comme justement un objet qui est déjà pris en charge par une iconographie privée. Et donc qui vont alors en partie refaire poser des gens devant leur maison ou faire la photo qu'on enverrait à sa famille après avoir déménagé dans un nouvel endroit. Donc aux États-Unis, les logements sont depuis longtemps surtout des maisons, donc des objets qu'on peut bien cadrer. Et donc même quand ces images, même quand c'est des grands photographes comme Walker Evans qui s'approchent et qui photographient des maisons, il y a toujours derrière dans cette prise de vue un regard possible qui serait celui de quelqu'un devant sa propre maison et qui ferait cette photo parce que c'est le centre du monde et c'est ma vie et j'ai l'archive visuelle de mon existence.
Et oui, parce que c'est cela aussi, hein. L'archive liée à la photographie amateur, on a parlé des familles, des grands moments, de la vie, c'est quelque chose qui nous lie à une forme d'intimité. C'est aussi cela le succès de la photographie amateur, on le sait bien, mais le dire c'est simplement évoquer le quotidien des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent et qui ont maintenant dans leur téléphone portatif des tas et des tas de photographies. Nous avons besoin de nous créer une image de notre propre vie. Ça explique le succès de la photographie amateur au-delà de l'exploit qui pouvait être réalisé au début du XXe siècle, l'exploit de votre grand-père, entre autres Pierre-Jean Hamard, quand il photographie Alger au début du XXe siècle.
Oui, alors pour lui déjà, ça n'était plus un exploit technique. Hein. Il avait déjà toutes les mêmes facilités pratiquement qu'aujourd'hui. Hein. Il avait des plaques sèches, il avait des appareils portatifs, donc c'était pas plus compliqué qu'aujourd'hui. Par contre, la grande différence aujourd'hui, c'est que 98% des photographies d'amateurs sont produites, comme vous l'avez dit, par les smartphones. Et ça pose un énorme problème. Que vont devenir ces photographies ? Lorsque les amateurs des années 60, 70, 80 faisaient de la photographie, ils allaient les porter au laboratoire et on leur donnait des tirages. Ces tirages, ils les collaient dans des albums. Aujourd'hui, tous les gens qui font de la photo avec leur portable ne les font pas tirer. Donc ces photos sont vouées à disparaître. Ou tout au moins, ne seront pas accessibles. Il ne restera rien de... Sauf si quelques-uns font faire des tirages, ou si quelques-uns ont la précaution de faire un transfert dans des disques durs. Mais ça, c'est pas la majorité. Hein. La majorité, ils font clac-clac avec leur téléphone, et puis ils les regardent, ils les montrent éventuellement à quelqu'un, ils les envoient peut-être à leur grand-mère ou à leur tantine, mais ça s'arrête là. Donc, il n'y a plus la soirée diapo de tonton Alfred.
Mais oui,
il n'y a plus la soirée diapo de tonton Alfred, qui en plus commentait, racontait, parce qu'il n'y avait pas dans la photo les éléments nécessaires à la compréhension. Il fallait que quelqu'un nous explique où c'était, quand c'était, pourquoi on était là. Et ça, tonton Alfred le faisait très bien, même si c'était un peu lassant au bout de la 675e photo.
Et d'ailleurs, c'est à peu près le même procédé avec les réseaux sociaux, qui diffusent énormément de photographies sans qu'elles soient toujours contextualisées. Bien et sûr. Par la masse, parfois, elles perdent de leur sens. Hélène de Larmina, pour ses photographies, nous l'avons dit, hein, il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose lié aussi à l'archive. Ces photographies amateurs sont riches d'informations, de documentation.
Absolument, et la question que posait Pierre-Jean Hamard, que vont devenir ces photos, elle est très importante si on s'attache à la pratique amateur en tant que telle et qu'on voudrait pouvoir voir ce que les gens ont photographié, mais aussi parce qu'il y a un très grand, et peut-être en particulier maintenant, puisqu'on voit circuler sur les réseaux sociaux beaucoup d'images privées, on est d'autant plus sensible à cette archive qui est dans les maisons, à pouvoir voir quelque part l'équivalent de Facebook et Instagram il y a quelques décennies, aussi parce que les photos de famille sont beaucoup republiées sur les réseaux sociaux, et parce que ces archives de la photo de famille, ces archives de photos amateurs, sont une mine en fait d'histoire sociale, et en particulier parce que rares sont les gens qui font venir un photographe professionnel chez elles et eux. Ça demande un, a priori, alors il y a des gens qui font faire des photos de leur famille aujourd'hui chez eux, mais c'est une pratique qui est, ça va donner quelques images, mais la majorité de la vie de ses enfants, par exemple, bah, c'est pas, elle sera pas faite, elle sera pas photographiée par, il y a les photos de l'école, quoi, du photographe scolaire, et après le reste des images, c'est la maison, c'est l'espace domestique. Et donc, pouvoir récupérer les archives privées pour, des historiens et des historiennes de la vie urbaine, des modes de vie, pour des musées en particulier. Et moi, j'ai vu ce processus en particulier à Chicago avec l'établissement d'un musée du logement social. Alors, il y a d'énormes archives institutionnelles, donc les logements sociaux de Chicago ont été énormément photographiés, mais l'archive la plus importante, celle qui a vraiment été recherchée et récoltée, c'est celle des familles qui ont vécu dans ces logements depuis les années 30, moment où la photo, enfin, certaines familles pouvaient déjà avoir des enfants qui faisaient de la photo. Et donc, il y a cette espèce d'immense mine, en fait, de données qui, un peu comme on chercherait des journaux intimes ou d'autres formes d'archives du champ privé, qui sont recherchées. Mais en fait, à l'époque, et un autre exemple frappant, ce serait l'exposition et le film sur Casa Susana, donc cette archive de photos transgenre des années 60 dans le nord-est des États-Unis, qui a été trouvé donc de façon classique au puce et qui est apparu comme une archive extrêmement rare en fait de pratiques de travestissement et de vie un petit peu à l'envers tout en empruntant les formes d'une vie de classe moyenne bourgeoise, donc de reconstituer une famille et de refaire de la photo de famille avec en déplaçant certains rôles et en adoptant des places qui sont refusées en fait dans le reste de la société. Et ben ces images ne peuvent être trouvées que dans des albums alors de familles recomposées, des albums d'amis. Et d'ailleurs, la photo de famille, c'est aussi une photo d'amis. Enfin, c'est un grand enjeu aussi pour voir, voilà, peut-être sortir la photo amateur des conceptions qu'on peut avoir de l'organisation de la société. Il y a beaucoup de groupes d'affinités. Les photographes amateurs sont des gens parfois qui font de la photo entre photographes. Donc, on peut construire des collectifs un petit peu différents. Et je voulais aussi revenir à cette idée de la richesse de ce regard des amateurs, des images qu'ils produisent, qui n'est pas simplement un effet rétrospectif. C'est une question d'archives qu'on cherche dans le passé. Mais c'est aussi une question, quelque part, d'archives qu'on construit pour le futur. Et il y a beaucoup de cas, en fait, au XXe siècle, d'institutions, de projets scientifiques ou muséaux qui vont chercher à mobiliser les amateurs parce que ça coûte pas cher, parce que c'est beaucoup de gens qui peuvent être à beaucoup d'endroits. Voilà, ça fait tout de suite des milliers de photographes à Chicago au lieu de quelques, peut-être centaines de professionnels si on prend vraiment tous les photographes. Et aussi parce que les amateurs ont accès et vont peut-être s'intéresser, enfin auront à la fois un accès et un lien particulier avec des espaces sociaux qui sont hors du champ du photojournalisme professionnel et sont ceux et celles qui pourraient produire les images des modes de vie, du petit déjeuner, des maisons dérangées, de toutes sortes d'aspects importants de la vie sociale qui sont hors du champ de la photographie, qu'on peut dire soit artistique, soit professionnelle.
Et comme un grand renversement de position, parfois l'artiste lui-même s'empare de sujets habituellement réservés aux amateurs. Martine Parr.
Quand je suis passé à la couleur en 82-83, j'utilisais un boîtier 6-7, format moyen, avec un film couleur négatif. J'utilisais des films amateurs avec un flash. Ça donnait beaucoup d'intensité à mes couleurs. Avant, j'utilisais un 24-36. Et puis, au cours de ces 10 dernières années, j'ai commencé à utiliser une optique macro 24-36, là encore, avec un flash assez intense, des couleurs très vives. Ce qui donne à mes photos un côté un petit peu surréel que j'utilise et que j'exploite au maximum. J'essaie d'utiliser la langue offerte par la photographie pour faire en sorte que j'ai des photos qui soient accessibles mais aussi irrésistibles.
Bien,
ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la lumière ambiante, c'est la lumière naturelle, et on ajoute du flash, ce qui permet de retirer toutes les ombres et certaines émotions. Et j'aime bien avoir l'objectivité apportée par le flash, mais aussi des couleurs très intenses. Donc en termes de contribution à cette langue de la photographie, ça donne quelque chose de surréel aux photos, quelque chose de plus vif, de plus ouvert, sans les émotions données par la lumière du soleil.
Le photographe Martine Parr qui s'exprimait sur France Culture en 2004. Martine Parr qui nous a quittés en 2025 à la toute fin de l'année, et une œuvre absolument remarquable. qui d'ailleurs interpelle et dérange Pierre-Jean Amar quand le photographe professionnel s'empare de sujets amateurs. Et c'est en cela vraiment que les frontières, nous l'avons dit, sont poreuses. Cette question de regard fait que des amateurs peuvent faire des photos d'une puissance au-delà de certains professionnels. C'est juste savoir ce que l'on désire faire avec la photo.
Oui, alors je crois que le cas de Martin Parr est vraiment un cas emblématique. C'est que il s'est emparé justement de ce langage de la photo amateur au premier degré. Mais, à la fois par la technique qu'il vient d'expliquer, du flash, etc., il a réussi à créer des images, comme il le dit, surréelles. C'est-à-dire qu'on voit quand on voit les images de Martin Parr, on les reconnaît tout de suite. On ne peut pas les confondre avec des photographies d'amateurs. Bien que les sujets soient des sujets banals, une dame qui mange sa glace ou une dame qui est en train de se faire bronzer au soleil avec ses lunettes bleues. Bon, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le sujet qui fait la photo. Ça n'est pas le moment qui fait la photo. Ce qui fait la photo, c'est le photographe. Et ce photographe, eh ben, c'est celui qui voit. C'est celui qui voit. Et qui voit différemment des autres. Parce que moi, qui ai beaucoup enseigné la photographie, souvent, mes stagiaires me disaient « Mais comment on peut définir la photographie ?» Ben, j'ai dit « C'est pas compliqué. Celui qui voit, c'est le photographe. Celui qui voit pas, ben, tant pis. » Et on est dans le domaine. Alors ça, c'est une opinion qui peut être discutée, mais c'est mon opinion. Je pense que c'est du domaine de l'inné et pas de l'acquis.
C'est-à-dire
la vision... La vision, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire que j'ai un exemple. J'ai eu dans mes stages un monsieur, une cinquantaine d'années, qui voulait commencer à faire un peu de photos, un peu mieux que de la photo d'amateur. Et il n'en faisait pratiquement pas. Donc il est venu dans ce stage et il m'a dit « Voilà, moi je ne veux pas m'embarrasser de choses compliquées. Donnez-moi quelques points de repère simples que j'appliquerai. » J'ai essayé de lui donner ses repères simples, à la fois pour la prise de vue et pour les tirages. Eh bien, dites-vous bien qu'au bout de 3 jours, il m'a sorti des photos mais extraordinaires. Tout simplement pour une simple raison, c'est que ce qu'il voyait était intéressant et la façon dont il le traduisait avec son appareil photo était extraordinaire. C'est pour ça, et dernière chose sur ce domaine, quand on regarde l'œuvre des grands photographes, on s'aperçoit qu'entre leur première photo et leur dernière, il n'y a pas d'évolution de qualité. La qualité des premières photos est la même que la qualité des dernières. Willy Gronis, que j'ai bien connu, ça se vérifie. Cartier-Bresson, ça se vérifie. Pierre-Jean Amar, ça se vérifie. J'ai fait un livre, il y a une vingtaine d'années, sur Notre-Dame de la Garde à Marseille. Il y a dans ce livre une photo de mon premier film que j'ai fait en 1965. Eh bien, dans le livre, on ne peut pas dire c'est une photo de jeunesse ou c'est une photo de début. Non, c'est la même qualité que le reste. Après, on peut discuter de cette qualité. On peut en discuter. Mais en tout cas, c'est égal.
Ouais, j'aime bien cette idée-là de dire que le regard est présent déjà dès l'enfance. Alors, faudrait regarder avec d'autres photographes. Qui était-il enfant, ces photographes, avant d'être photographe? L'exemple avec Jacques-Henri Lartigue.
Voilà. J'avais inventé un jeu que j'appelais mon piège d'œil. J'avais à peu près 5 ans. Et ce piège d'œil consistait à regarder les choses qui m'émerveillaient, à tourner 3 fois sur moi-même, à fermer les yeux, et je croyais avoir attrapé tout mon émerveillement, c'est-à-dire non seulement ma vision, mais l'odeur des choses, l'air, l'ambiance de la grande campagne dans laquelle j'étais. Je croyais que j'allais conserver ça dans mon intérieur, dans une boîte de conserve. Quand l'année d'après, j'ai découvert que mon piège n'avait pas fonctionné du tout, car rien n'était attrapé, j'ai eu une espèce de désespoir qui s'est très vite guéri. Et mon père, à ce moment-là, avait un gros appareil de photo qui m'a tout à fait emballé, qui m'a intéressé. Et je pense que la photographie m'a passionné, car elle complétait ce pauvre piège d'œil remplacé par l'écriture, la peinture et la photographie. L'appareil de photographie m'a apporté un tiers de la solution qui est surtout d'écrire et de peindre, mais qui est un pauvre piège d'œil humain à côté d'un piège d'œil féerique que je croyais avoir inventé. Moi, je ne fais pas de photos pour les conserver. Je fais des photos pour soulager une tristesse de voir les belles choses passer.
Bon, en 1975, Jacques-Henri Lartigue, Pierre-Jean Amar, ça vous fait sourire aussi?
Ah oui, d'abord parce que j'ai bien connu Jacques-Henri Lartigue. Et voilà l'exemple d'un amateur qui devient, enfin, que l'on finit par reconnaître comme un grand photographe quand il avait 70 ans. C'est Richard Avedon qui va découvrir l'œuvre de Jacques-Henri Lartigue, qui va être tellement emballé par cette œuvre, qui va en faire un grand livre, qui s'appelle « L'instant de ma vie », et qui va lancer Jacques-Henri Lartigue dans le monde de la photographie professionnelle, mais surtout la photographie artistique. Et Jacques-Henri Lartigue devient un professionnel à 70 ans. Il va devenir, alors là, quelqu'un avec qui on va passer des commandes. Il va être le photographe de Giscard d'Estaing pour la photo officielle. Voilà, et c'est un homme qui s'est retrouvé mis dans un milieu qui n'était pas du tout le sien au départ. Lui, il était peintre, il vivait de sa peinture, plus ou moins bien, mais comme il était d'une famille très riche, ça ne dérangeait pas beaucoup de ne pas être un peintre très célèbre. D'ailleurs, sa peinture est bien en dessous de la qualité de ses photographies.
Hein. Il a bien fait de faire la photo.
C'est une évidence. Mais lui ne cherchait pas à en faire quelque chose de connu et de reconnu.
Hélène Delarmina, dans cette histoire-là, nous entendons des photographes professionnels cités par leur nom, et puis pour les photographes amateurs, on donne pas de nom vu qu'ils sont amateurs, mais la valeur est liée aussi à l'ensemble, à la masse, c'est-à-dire que ces photographies d'amateurs mises ensemble, bout à bout, qui forment des collections, nous donnent une autre manière de voir le monde. Et vous avez étudié Chicago, mais ça vaut pour toutes les villes, ça vaut pour partout, pour le moindre village. Quand on met ensemble toutes ces photos amateurs, on n'a plus besoin de savoir qui les a réalisées, ça nous raconte une histoire.
Alors ça documente le monde. Effectivement, on peut, grâce à ces images, voir ce qu'ont vu beaucoup de photographes. Et donc ces images, elles contribuent à une histoire des représentations, une histoire des regards qui effectivement peut être anonyme, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de savoir que c'était telle ou telle personne pour s'intéresser au fait que à Paris en 70, à Chicago en 1960, on soit frappé par telle ou telle évolution ou par tel ou tel aspect de la vie sociale. Et par ailleurs, cette archive, elle doit nous, je pense, nous amener à envisager ce que c'est qu'une bonne photo autrement que une bonne photo de la Tour Eiffel parce qu'une bonne photo de ma grand-mère ou une bonne photo de mon chat, c'est pas forcément une photo qui est très bien cadrée, mais c'est vraiment une bonne photo. C'est une photo qui comptera beaucoup pour moi et qui sera pas forcément substituable. Et ce qui m'a frappé dans les trois extraits qu'on a entendus là de Pauline Carton, Willy Ronis et Jacques-Henri Lartigue, c'est les mots de plaisir, d'émerveillement, d'émotion qui sont employés pour des photos d'auteurs, d'artistes, de photographes, mais qui sont vraiment le sang, quoi, du rapport à la photographie ordinaire et des raisons pour lesquelles on continue à produire des milliards de photographies chaque jour, je pense.
Mais merci vivement à vous d'avoir clos cette émission avec ces mots de plaisir et d'émotion, parce que c'est toujours cela, l'émotion devant une photo d'artiste et l'émotion devant une photo qui nous touche particulièrement parce qu'elle est liée à notre vécu. Merci à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire, photographier la maison aux États-Unis, cet ouvrage à Houssiz et Holmes, Hélène Delarmina, que l'on retrouve avec toutes les références sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr, et Pierre-Jean Amar, histoire de la photographie, les 100 mots de la photographie, bien sûr, ce sont des que sais-je, Alger retrouvé 1940, et puis je suis obligé de le dire, Photomatou, l'ouvrage que nous avons réalisé tous les deux, avec vos chats. Merci beaucoup à tous les deux, prochain épisode dans le cours de l'histoire, copier-coller, manipuler, histoire du photomontage.
sélectionner le masque de fusion du personnage. Donc j'appuie sur commande ou CTRL ou contrôle et je récupère la sélection ici sur le personnage. Je vais sur fleur et là, eh bien, j'appuie sur le masque de fusion pour créer un masque de fusion à partir de cette sélection. Ok.
Et puis. Et ben si voilà, parce que les photos sont modifiées, sans cesse modifiées, de leurs origines jusqu'à aujourd'hui. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Alloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.